Bonjour Wilfried.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une ce matin, la traditionnelle messe de la nuit de Noël célébrée par le pape François, c'était hier en la basilique Saint-Pierre de Rome, 2000 fidèles rassemblés malgré la pandémie et un message d'humilité prononcé par le pape, reportage dans un instant. C'est une question dans l'air du temps, comment faire un Noël le plus écolo possible? Un élément de réponse, pensez au recyclage du papier cadeau. 20 000 tonnes de papier en cette période en France, si le papier et recyclable, certaines matières comme le plastique le sont moins. Face à une flambée des cas de Covid, le masque fait son grand retour à l'extérieur en Grèce et même le Père Noël n'échappe pas à la règle, vous l'entendrez. Dans ce journal également, l'avenir de François Fillon en Russie. L'ancien Premier ministre a intégré cette semaine le conseil d'administration de Sibur, géant russe de l'industrie pétrochimique. Une place aux côtés de différents oligarques russes proches du président Poutine. Et puis nous prendrons la direction de la Guyane, précisément de la base de Kourou. C'est de là que doit décoller une fusée Ariane 5 dans quelques heures. À son bord, le télescope géant James Webb, plusieurs fois retardé. Décollage finalement prévu vers 13h20, heure
et
de Paris.
Puis notre invité dans 20 minutes, question ce matin sur les origines de Noël, question sur les chrétiens aussi, les chrétiens d'Orient notamment. Nous en parlerons avec le théologien et historien Jean-François Colosimo, le directeur général des éditions du CERF.
France Inter. Le pape François a donc bien célébré la messe de la nuit de Noël, pas à minuit toutefois comme le veut la tradition, mais aux alentours de 19h30. Et il y avait du monde hier dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Quelques 2000 fidèles ont assisté à la messe et au plaidoyer du pape pour plus d'humilité. À Rome, le reportage de Bruce de Galzin.
2000 fidèles ont assisté à la messe de Noël. Une trentaine de cardinaux, des évêques et 160 prêtres ont concélébré avec le pape. Avant la messe, dans un tweet, François avait demandé de ne pas oublier les plus pauvres, faibles et fragiles que la pandémie risque de marginaliser encore plus. Dans son homélie, il a appelé à la simplicité et même la petitesse.
C'est le défi de Noël. Dieu se révèle, mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal. Le Très-Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Jésus naît pour servir et nous passons notre temps à courir après le succès.
Aux cardinaux de la Curie, qui gouverne l'Église, François demandait justement cette semaine un peu d'humilité. Le pape montre la voie d'une Église humble dans un monde déchristianisé, en Europe en tout cas. C'est d'ailleurs accompagné de 10 enfants des 5 continents que François a porté la statuette de Jésus dans la crèche à la fin de la messe, avant de rejoindre ensuite son petit appartement. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Le pape qui doit aussi rendre sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi aujourd'hui, ce sera à midi depuis la place Saint-Pierre au Vatican. C'est l'une des traditions de Noël, les cadeaux, beaucoup de cadeaux et donc beaucoup d'emballages en papier pour la plupart, mais aussi en plastique. Au total, ce sont près de 20 000 tonnes d'emballages qui sont utilisés en France pendant toute la période des fêtes. Et si la tentation est forte de tout jeter, pensez plutôt au recyclage et donc au tri, Lucien Madieu.
Selon leur matière et là où vous habitez, les emballages pour les cadeaux de Noël n'ont pas la même fin de vie. Il y a ceux en papier qui sont recyclables et ceux qui ressemblent à du papier mais qui contiennent une fine pellicule de plastique. Ces emballages sont plus difficiles à recycler, toutes les villes ne les traitent pas. À Toulouse, Bordeaux, Dijon ou encore à Marseille, ils ne peuvent pas être jetés dans la poubelle jaune avec les emballages en papier. Il faut donc réussir à les distinguer. Stéphanie Foucard, chez Citeo, une entreprise spécialisée dans le recyclage, a quelques astuces.
Vous le voyez au toucher, c'est quelque chose qui se froisse, donc le bruit est différent. Si vous avez du mal à déchirer votre papier cadeau, c'est qu'il est effectivement en plastique. C'est quelque chose qui vous permettra de différencier les deux matériaux.
En tout, 20 000 tonnes de papier cadeau sont utilisées chaque année à cette période. La filière n'est pas en mesure de tout absorber, faute de pouvoir recycler partout les papiers plastifiés. Les professionnels l'assurent, cela devrait devenir possible sur l'ensemble du territoire d'ici 2023.
Une période de fête qui s'annonce propice au voyage également. Ils sont nombreux, hein. D'ailleurs, ces Français qui ont pris la route des vacances. Au moins 20 millions de personnes pendant les fêtes pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme. Philippe Lefebvre, quelles sont donc les destinations qui ont la cote et celles qui nous font le plus rêver?
Eh bien, ce n'est pas une surprise. La montagne est la grande gagnante de ces fêtes de fin d'année. Et tant du côté des locations d'appartements ou de chalets que du côté des forfaits, tout compris dans les clubs de vacances, eh bien, on enregistre des ventes en hausse de 50% par rapport à 2019. Mieux en ce moment, dans certaines stations, on n'est pas loin de connaître le même niveau de fréquentation que durant les vacances de février, avec des séjours de 8 jours et 7 nuits qui représentent par exemple 45% des réservations du site de voyage d'une chaîne de grande surface.
Alors on parle de la montagne, mais quelle solution, quelle destination pour ceux qui ne supportent pas la neige ou qui trouvent que c'est trop cher ?
Alors on retrouve, même si c'est difficile à quantifier, ce que l'on appelle l'hébergement non marchand. En clair, c'est quand vous séjournez gratuitement chez des proches ou dans la famille. Et puis il y a aussi des demandes pour des séjours au-delà des frontières. Alors il y a 5 destinations qui attirent particulièrement les Français en ce moment. Il s'agit de Barcelone, de Lisbonne, de Rome, de Prague et de Venise. Et pour ce qui est des destinations long courrier, on retrouve Dubaï qui bénéficie pleinement de l'effet exposition universelle, New York, même avec l'obligation d'avoir la vaccination complète et un test PCR, et puis Montréal et Saint-Denis de la Réunion. En revanche, la Martinique et la Guadeloupe attirent beaucoup moins depuis les récentes manifestations sur fond de vaccination et de passe sanitaire.
C'était Philippe Lefebvre.
Oui, Philippe Lefebvre, et oui, bien sûr. Et si l'esprit est à la fête et au voyage, la pandémie jette une ombre sur ce tableau. Nouveau record de contamination en France hier, 94 124 nouveaux cas en 24 heures. Jamais un tel niveau n'a été atteint depuis le début de la pandémie. Conséquence de cette cinquième vague qui déferle et de la période des fêtes, une ruée vers les tests hier encore. Les pharmacies prises d'assaut notamment. On parle de plus d'1,5 million de tests réalisés rien que sur la journée de jeudi en France. Une très forte affluence provoquant la saturation temporaire du site web, gérant les résultats, d'où une transmission des résultats parfois tardive. Et face à ces nouveaux pics de contamination, Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense sanitaire. Il est prévu jeudi après-midi à l'Élysée, en vue une possible révision des règles d'isolement, de surveillance, notamment pour les cas contacts. C'est aussi lundi que le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, doit adopter le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et puis, dernier mot de la pandémie avec ce nombre de cas record également au Royaume-Uni, submergé par le variant Omicron, plus de 122 000 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures hier. En Grèce, à l'occasion des fêtes de fin d'année, les autorités imposent une série de nouvelles mesures pour lutter donc contre le coronavirus et la diffusion du variant Omicron. Le port du masque devient ainsi à nouveau obligatoire dans la rue, tandis que dans les transports en commun ou les supermarchés, les Grecs sont à présent sommés de porter soit deux masques superposés, des masques chirurgicaux, soit un masque KN95, vous savez, celui en forme de bec de canard. Par ailleurs, dès la mi-janvier, la vaccination des plus de 60 ans deviendra obligatoire sous peine d'une amende mensuelle. À Athènes, le reportage de Joël Bronner.
Dans un petit marché de Noël du centre d'Athènes, le masque du Père Noël lui-même a tendance à tomber en raison du poids de sa longue barbe blanche.
Je pense que ces mesures sont bonnes. Nous avons beaucoup de cas détectés en Grèce. Nous devons donc faire attention pour mettre un terme à cette pandémie.
Plusieurs milliers de cas de Covid détectés quotidiennement dans ce pays de 11 millions d'habitants ont convaincu le Père Noël de l'utilité du port du masque dans la rue, voire d'un double masque dans les transports et les supermarchés. Un peu plus loin, un de ces lutins est pourtant nettement moins convaincu.
En général, je les trouve plutôt déconcertantes, ces mesures. Nous sommes fatigués de toutes ces règles et de la façon dont elles nous sont communiquées. C'est compliqué à suivre et souvent ces mesures sont carrément inutiles. Cela déroute les gens plus que ça ne les aide.
Et la confusion n'a sans doute pas fini de tourmenter les lutins locaux. Pour le début d'année, le gouvernement grec a en effet d'ores et déjà annoncé qu'une nouvelle série de mesures contraignantes entrerait en vigueur. Athènes, Joël Bronner, RFI pour France Inter.
L'actualité ce matin, c'est aussi François Fillon qui poursuit sa carrière en Russie. L'ancien Premier ministre a intégré en fin de semaine le conseil d'administration de Sibur, c'est un géant russe de la pétrochimie.
Oui, après un autre groupe russe, le groupe Zaru Bensteft, l'été dernier, c'est la seconde grande entreprise russe dans laquelle l'ancien Premier ministre, dont il rejoint le conseil d'administration à Moscou. Les précisions de Jean-Didier Revoin.
François Fillon possède une expertise unique et une expérience approfondie de la gestion, de l'économie et des processus commerciaux qui aideront l'entreprise. C'est en ces termes, dans les colonnes du site économique russe RBK, qu'une source anonyme a qualifié l'entrée de l'ancien locataire de Matignon au conseil d'administration de Cibourg. Le principal fabricant russe de plastique, caoutchouc et autres dérivés d'hydrocarbures a l'intention de se focaliser sur des modes de production plus respectueux de l'environnement. Il compte sur François Fillon et ses réseaux pour optimiser ce processus. Le français prend ainsi la place de Kirill Chamalov, un homme que les médias russes décrivent comme l'ancien gendre de Vladimir Poutine, appelé à d'autres fonctions. L'ex-candidat à la présidentielle de 2017 siégera toutefois aux côtés d'oligarques proches de Poutine, tels que Gennady Timchenko ou Leonid Mikhelson, dont la fortune dépasse les 20 milliards de dollars. En fait, l'ancien Premier ministre représente un vecteur d'influence considérable pour ces entreprises russes, à l'heure où les relations entre Moscou et la plupart des chancelleries européennes sont dans une mauvaise passe. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
L'actualité internationale, c'est aussi la Libye avec cet appel de la communauté internationale après le report des élections. Elles étaient prévues vendredi. Les États-Unis, la France et plusieurs autres pays européens réclament la mise en place rapide d'un nouveau calendrier électoral. Il faut que les différences sur les questions politiques ou militaires se règlent sans recours à la violence, martèlent donc ces pays. Et ces nouvelles élections en Libye pourraient se tenir dans un mois, le 24 janvier prochain. Le Parlement libyen doit se pencher en début de semaine sur ce nouveau calendrier.
Retour en France, en Guyane précisément, avec un projet scientifique imaginé il y a plusieurs décennies, eh bien, il devient enfin réalité.
Et oui, aujourd'hui, à 13h20, aux alentours de 13h20, depuis Kourou, la fusée Ariane 5 doit décoller pour déposer en orbite le plus grand télescope spatial jamais lancé. C'est le télescope James Webb. C'est un projet conjoint de la NASA et de l'Europe. Cet engin, donc, est successeur du télescope Hubble, qui a subi d'importants, et son projet, pardon, son lancement a subi d'importants retards. Trois reports successifs ces dernières semaines. Il faut dire que son coût, on parle de 10 milliards de dollars, eh bien son coût met tout le monde sous pression. À 1,5 million de kilomètres de la Terre, il ne sera pas réparable comme Hubble en son temps. Lui, il était beaucoup plus proche. Alors pourquoi un tel retard dans le lancement du télescope James Webb? Olivier Lamarle, responsable du programme Science de l'Univers au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'explique à Sophie Becherel.
Il faut imaginer qu'à la fin des années 90, la NASA imaginait un lancement en 2005 et un coût de 500 millions de dollars. Vous voyez un petit peu, on est à pratiquement 10 milliards de dollars aujourd'hui, hein, un facteur 20. On se lançait dans l'inconnu. Les miroirs utilisent du beryllium, de l'or. L'instrument MIRI, dans cette gamme de longueur d'onde, n'était pas très bien vu de la NASA au début parce qu'il était compliqué, il fallait le refroidir. C'était la première fois qu'on faisait un refroidissement avec des machines frigorifiques dans l'espace. Donc tout ça, c'était exploratoire. Donc c'est pas très étonnant qu'on ait beaucoup de surprises. Il y a eu des problèmes d'organisation, d'industrie, des problèmes techniques évidemment, lors des premiers essais, qui ont montré qu'il fallait revoir la copie. Tout cela est à la fois, je dirais, un peu normal et attendu pour une mission de cette ampleur.
Et à 8h13 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Pas de trêve de Noël pour le top 14 de rugby.
C'est même l'événement sportif du week-end, parce que si la plupart des championnats font relâche en France pendant les fêtes de fin d'année, ce n'est pas le cas en effet du ballon ovale depuis plus de 10 ans maintenant. Le week-end de Noël, eh bien, le top 14 prend les commandes des retransmissions télévisées et bat des records d'affluence dans les stades en organisant son Boxing Day comme pour le foot en Angleterre. Mais cette année, la compétition est rattrapée par le Covid. Deux matchs sont déjà reportés, Fanny Lechevestrier.
Oui, l'annonce est tombée via un communiqué tardif hier soir de la Ligue nationale de rugby et après une réunion en urgence du comité des compétitions. Comme redouté, les rencontres Racing Pau et Toulon-Bordeaux ne pourront pas se dérouler lundi. Franciliens, mais aussi Palois et Bordelais étant touchés par de nombreux cas positifs de Covid depuis le milieu de la semaine. Les derniers tests effectués au sein des clubs hier ont en plus révélé de nouveaux joueurs touchés par le virus. Impossible dans ces conditions de maintenir ces deux rencontres. Tous les entraînements au sein de ces trois clubs ont également été suspendus. Ils ne pourront reprendre qu'en milieu de semaine prochaine, sous le contrôle de la commission d'expertise de la Ligue et alors qu'une nouvelle journée de championnat est prévue pour le jour de l'an. Avant ce week-end, Bordeaux était aux commandes du top 14 et pouvait boucler l'année 2021 avec le titre honorifique de champion d'automne. Et
les autres rencontres de la 13e journée devraient bien se tenir dès demain avec notamment une belle affiche, Stade Toulousain, Stade Français, devant plus de 38 000 spectateurs, cela veut dire qu'on aura quand même des joueurs à l'entraînement en ce jour de Noël.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on ouvre maintenant une page consacrée aux athlètes qui ont ou vont marquer le sport français.
Et s'il y a bien un sport dont les résultats ont déçu en 2021, c'est l'athlétisme en France. Une seule médaille aux Jeux Olympiques d'été, argent pour le décathlonien Kevin Mayer. Mais un jeune athlète incarne peut-être la renaissance de l'athlétisme tricolore. Un spécialiste du 110 mètres haies qui s'appelle Sacha Zoya. À 19 ans seulement, Jérôme Val l'a rencontré il y a quelques jours.
Cet été, Sacha Zoya a battu deux records du monde junior du 110 mètres haies en deux jours avec un chrono inférieur à celui établi en élite. Preuve de son impressionnant potentiel, une performance qui fait de lui, aux yeux de beaucoup, le futur de l'athlétisme français, même si à 19 ans, il n'a pas l'intention de se mettre trop de pression.
Moi, j'ai rien promis à personne en train de dire que je vais te faire ça ou je vais faire ça pour vous. Moi, j'ai juste dit, moi, je veux faire ça pour moi-même. Ça va pas monter ma tête moi-même. Moi, je reste où je suis.
Né d'une mère française et d'un père zimbabwéen en Australie, il s'entraîne désormais à l'INSEP dans le bois de Vincennes à Paris.
Il est casse-pied, mais c'est aussi un point fort comme un défaut.
Il est relou. Le fait qu'il soit relou, c'est bien.
Avec deux entraîneurs, l'ancien sprinteur Dimitri Demonière et le spécialiste des Eladji Doucouré.
Qu'il soit demandeur, en fait, et qu'il a besoin de comprendre, qu'il a besoin d'être pilote.
Décontracté, souriant par moments. En taquin, Sacha Zoya semble sûr de sa route. Il veut tout gagner, un tempérament acquis quand il vivait en Australie.
Les Australiens sont des gens très très sportifs. Alors t'es élevé avec une mentalité compétitive. Moi c'est n'importe quel sport, n'importe quoi, je veux gagner.
Il se sait très attendu à Paris dans 2 ans et demi, un objectif qui ne l'effraie pas le moins du monde.
Et on lui souhaite évidemment bonne chance. Portrait signé Jérôme Val.
Laetitia Bernard dans le journal de Wilfried De Villers. Merci à vous deux. Le temps de ce samedi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Avec des températures en hausse et un ciel souvent gris encore, hein, Jean-Pierre Hameau.
Avec ce flux océanique perturbé, peu de chances de voir le soleil aujourd'hui. Ce matin, pas de jaloux, le ciel est généralement gris avec des pluies passagères, parfois marquées, en particulier dans le nord-est, mais aussi entre les Cévennes et la Côte d'Azur, sans oublier la Corse. À noter l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse intéressant déjà la Bretagne et les Pays de la Loire. Cet après-midi, cette perturbation va progresser vers la Normandie et la région centre. Partout ailleurs, le gris restera la couleur dominante du ciel. Prévoyez de faibles précipitations entre le massif central et les Alpes frontalières, puis vous apprécierez tout de même quelques trouées de ciel bleu vers le sud-ouest et le Limousin. Les températures maximales évolueront entre 5 et 16 degrés du nord au sud, avec 5 à Lille, 8 à Strasbourg, 10 à Paris, 12 à Brest, comptez 15 à Toulouse et 16 à Bastia.
C'était Jean-Pierre Hameau.